Le hasard devient une sorte de providence qui, sous le masque de l'athéisme, n'est pas nommé, mais que l'on adore secrètement. Ces mots appartiennent au célèbre zoologiste Pierre-Paul Grasset, ancien président de l'Académie française des sciences, et lui-même évolutionniste, qui récapitule comment les évolutionnistes adoptent le concept de hasard comme étant leur dieu. Selon la théorie de l'évolution, la vie est entièrement due à des causes naturelles et s'est développée au hasard. Autrement dit, les évolutionnistes considèrent le hasard comme étant divin et prétendent que c'est tellement sensé, conscient et puissant, comme s'il était capable de créer tous les systèmes délicats et les êtres vivants dans l'univers. Selon eux, l'univers dans lequel nous vivons, pourvu d'innombrables équilibres délicats, les millions d'espèces différentes d'êtres vivants et leurs structures, qui possèdent des structures et des caractéristiques extrêmement complexes, ont graduellement surgi comme par hasard. Cependant, le fait est qu'aujourd'hui, de tels domaines scientifiques comme la biologie, la paléontologie, la génétique, la biochimie et la microbiologie ont prouvé que la vie ne pourrait jamais en aucune façon surgir par hasard et dans des conditions naturelles. C'est parce qu'une simple cellule vivante est un grand miracle de la conception qu'elle suffit à elle seule à rendre complètement nul le concept du hasard. Cette intention supérieure et la conception des êtres vivants est l'une des preuves qu'ils ont été créés par Allah, Seigneur de la sagesse supérieure et de la connaissance infinie. Au cours de ce film, nous verrons comment les équilibres impeccables dans l'univers et les structures miraculeuses des êtres vivants rendent totalement nulle l'idée que la vie est surgie par hasard. Nous témoignerons aussi de la façon dont les évolutionnistes sont entrés dans l'impasse du hasard pour éviter d'admettre la vérité évidente de l'existence d'Allah. Pensez juste aux choses que vous voyez à partir du moment où vous vous réveillez le matin. Le miroir dans lequel vous vous regardez chaque matin, la clé qui ouvre votre porte de voiture, les feux de signalisation le long de la route, les panneaux d'affichage, les voitures, etc. Prenez un peu de temps pour réfléchir et il n'y aura aucun doute que chacune de ces choses a été créée dans un but particulier. Personne ne pourrait dire que c'était une question de hasard, que tout était là où il devait être quand vous vous êtes levé le matin. C'est parce que, avec les détails extrêmement complexes qu'il possède, chacun d'entre eux est un exemple d'une création divine. Qu'en est-il des gens que vous voyez marcher dans la rue? Ou bien des arbres devant lesquels vous passez sans prêter attention? Ou bien du chien qui court devant vous, des fleurs, du ciel au-dessus de vous? Pensez-vous vraiment que leur existence pourrait être due au hasard? Celui qui pense avec sa raison et sa conscience, sans être sous l'influence d'une quelconque préconception, se rendra immédiatement compte que les êtres vivants et les gens ne peuvent pas être le travail du hasard. Ils comprendront que c'est Allah, l'Omniscient et le Tout-Puissant, qui crée tous les êtres vivants. De tout temps, cependant, il y a eu des gens qui ont échoué à voir cette réalité évidente, ou plutôt qu'ils l'ont vue, mais l'ont ignorée. Ces gens sont parfois devenus professeurs, chercheurs ou paléontologistes, avec de longues années de formation derrière eux. Ils prétendent que les arbres, les oiseaux, les nuages, les maisons, les voitures, vous-même, les gens, tout autour de vous, en bref, tout dans l'univers, animés et inanimés, sont le travail du hasard aveugle. De la même manière, ces gens, tout au long de l'histoire, ont perdu toute rationalité pour être capables de considérer les totems et les statues qu'ils ont taillés de leurs propres mains comme étant divins et pensent que les statues faites debout pourraient posséder la puissance créatrice. Ces gens qui considèrent le hasard comme entité divine sont exactement dans la même position. Allah se réfère ainsi à ces gens dans le Coran. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien, et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Selon les revendications totalement imaginaires des évolutionnistes, à la suite de l'explosion connue comme étant le Big Bang, des atomes d'une certaine façon ont réussi à se créer dans un équilibre très sensible. Certains des atomes qui se répandraient au hasard seraient venus ensemble par hasard et auraient formé les étoiles et les planètes dans l'espace, tandis que d'autres auraient formé notre Terre. Certains des atomes qui ont formé notre planète y ont initialement formé le sol et ont plus tard soudainement décidé de former des êtres vivants. Ces atomes se sont d'abord métamorphosés en cellules avec des structures complexes et celles-ci se sont alors multipliées en se divisant en deux et ont commencé à parler et entendre. Plutôt que de se combiner simplement pour constituer une masse sombre, des atomes comme le carbone, le magnésium, le phosphore, le potassium et le fer sont venus ensemble pour former l'intelligence parfaite d'une complexité extraordinaire, dont les secrets n'ont pas été entièrement compris même aujourd'hui. Cette intelligence a commencé à avoir des images tridimensionnelles, d'une qualité succédant de loin à n'importe quelle technologie d'aujourd'hui. Ces atomes se sont alors métamorphosés en professeurs universitaires, se sont étudiés eux-mêmes sous des microscopes électroniques et ont prétendu qu'ils avaient surgi par hasard. Voici l'essence de la théorie de l'évolution. Malgré la nature illogique de ces revendications du hasard, beaucoup de gens, ces 150 dernières années, des scientifiques aux professeurs, des docteurs aux chercheurs, ont cru en cette théorie irrationnelle et illogique. Examinons maintenant cette revendication au moyen d'une expérience très simple, mais facilement compréhensible et convaincante pour fournir la réponse nécessaire au scénario imaginaire des évolutionnistes. Laissez quelqu'un qui croit en la puissance créatrice d'événements fortuits prendre un grand baril. Laissez-les mettre dedans cependant beaucoup de matière qu'ils croient être exigée pour former un être vivant, par exemple, laissez-les inclure tous les éléments nécessaires, le carbone, le phosphore, le calcium. Laissez-les aller encore plus loin et placez des acides aminés et des protéines, rien de cela ne pourrait probablement avoir surgi par hasard dans ce baril. Laissez-les alors soumettre ce mélange à toutes les sortes d'influences externes. Par exemple, chauffez ou refroidissez le baril. Laissez-le être frappé par la foudre ou appliquer le courant électrique. Laissez-les remuer les substances qu'ils ont placées dans le baril avec n'importe quel dispositif qu'ils choisissent, tant qu'ils choisissent, quelle que soit la vitesse qu'ils choisissent. De plus, laissez-les monter la garde sur ce baril, transférant cette responsabilité de père en fils pendant des milliers, voire des milliards d'années. Laissez-les consulter d'autres personnes, rencontrer les principaux biologistes du monde, des généticiens, des physiciens et des experts de l'évolution. le résultat ne sera jamais différent. Malgré tout ce sérieux, cet effort conscient, ils ne seront jamais capables de produire quoi que ce soit dans ce baril qui pourrait être vivant. Peu importe ce qu'ils font, ils ne seront jamais capables de produire l'immense variété d'oiseaux, de poissons multicolores, de lapins, de chevaux ou d'autres animaux à l'intérieur de ce baril. Malgré toute leur croissance dans le même sol et arrosée avec la même eau, ils ne pourront jamais, jamais produire des fruits dont les goûts sont si différents les uns des autres. Laissez ces atomes dans ce baril exécuter n'importe quelle réaction qu'ils veulent. Ils ne pourront jamais produire de brillants scientifiques comme Einstein et Newton, capables de résoudre des problèmes complexes. Des artistes comme Michel-Ange et Picasso capables de créer des chefs-d'œuvre. Des musiciens comme Beethoven et Mozart, capables de composer des mélodies pour enchanter l'esprit humain. Des découvreurs, des scientifiques capables d'examiner sous des microscopes électroniques les molécules et les atomes dont ils sont eux-mêmes composés. Ou bien considérer ceux capables de concevoir des automobiles et d'écrire des livres, des penseurs avec des facultés de logique et de jugement, des gens capables de mémoriser ce qu'ils ont appris, partageant des désirs, ressentant l'excitation et le plaisir que l'on possède avec le sentiment d'amour, de pitié et de compassion, aimant le goût de la nourriture et qui peut en défendre une idée. S'il en est ainsi, si aucun être vivant ne pourra jamais être produit par l'effort humain et l'association entière des connaissances humaines, comment la vie peut-elle être apportée dans un être à l'aide des atomes inconscients et des événements fortuits? Toutes les sciences positives du XXe siècle ont très clairement, définitivement et irréfutablement prouvé que pas une cellule vivante simple peut être produite dans le laboratoire en mettant ensemble des substances inanimées, sans parler du hasard. Si la vie existe, elle doit donc avoir un créateur. Même si des milliards de substances inanimées viennent ensemble, elles ne peuvent jamais venir à la vie elle-même ni posséder la conscience. C'est Allah avec son intellect supérieur, sa connaissance infinie et son pouvoir incomparable qui crée toutes ces entités. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi Istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. La formation de l'univers et son taux d'expansion, l'emplacement de la Terre dans la Voie lactée, le type de lumière émise par le Soleil, la viscosité de l'eau, les niveaux des gaz dans l'atmosphère et de nombreux autres systèmes avec leurs équilibres extraordinairement délicats montrent que l'univers ne peut définitivement pas être le fruit du hasard. Chaque planète dans l'univers, grande et petite, fait partie intégrante d'un ordre plus grand. Que ce soit leur position dans l'espace, ou n'importe lequel de leurs mouvements, rien n'est laissé au hasard. Au contraire, leurs innombrables détails connus de nous ont jusqu'ici été créés et ajustés particulièrement dans un but précis. De tous les facteurs innombrables influençant les équilibres dans l'univers, un changement de la position de juste une planète est assez pour apporter le chaos. Mais ces équilibres ne sont jamais renversés, l'univers continue, dans son ordre parfait, sans aucun problème. Tout cela est le résultat de la puissance suprême d'Allah sur la création. celui qui a créé sept cieux superposés, sans que tu voies de disproportion à la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard, y vois-tu une brèche quelconque, puis retourne ton regard à deux fois, le regard te reviendra humilié et frustré. La conception parfaite de l'univers, même menée par Charles Darwin, l'architecte de la théorie de l'évolution, pour admettre qu'il n'y a aucune place pour le hasard dans sa création. Comme il a écrit. De cela, la conviction de l'existence d'Allah s'ensuit la difficulté extrême, ou plutôt de l'impossibilité de concevoir, cet univers immense et merveilleux, y compris l'homme avec sa capacité de voir aussi loin dans le passé ou dans le futur, comme le résultat du hasard aveugle ou de la nécessité. Un autre équilibre extrêmement important dans l'univers est la distance entre la Lune et la Terre. Cette distance est de la plus haute importance pour la survie de la vie sur Terre et en d'autres termes, de l'entretien de nombreux autres équilibres. En effet, la plus légère variation dans la distance entre deux corps pourrait provoquer des déséquilibres significatifs. Par exemple, si la Lune était beaucoup plus proche de la Terre, elle pourrait entrer en collision avec notre planète. Si elle était beaucoup plus éloignée, elle partirait dans l'espace. Si elle était bien plus proche, les marées que la Lune provoque sur la Terre deviendraient dangereusement plus grandes. Des vagues océaniques avanceraient rapidement à travers les sections à basse altitude des continents. Une Lune plus éloignée réduirait l'action de la marée, faisant les océans plus lents. L'eau stagnante mettrait en danger la vie maritime. Cependant, c'est la vie maritime qui produit l'oxygène que nous respirons. Cela pourrait mener à la disparition de toute vie. La distribution de corps célestes dans l'univers est conçue exactement pour se conformer aux besoins de la vie humaine. Ces distances affectent directement les orbites et même l'existence des planètes. La distribution des corps célestes dans l'espace et les énormes espaces vides entre eux sont essentiels pour la vie sur Terre. Dans son livre, L'univers symbiotique, l'astronome américain George Greenstein explique l'importance des distances entre les corps célestes. Si les étoiles avaient été quelque peu plus proches, l'astrophysique n'aurait pas été tellement différente. Les processus physiques fondamentaux qui se produisent des étoiles, des nébuleuses et ainsi de suite auraient agi de façon inchangée. L'apparition de notre galaxie vue d'une certaine distance, lointaine et éloignée, aurait été la même. La seule différence aurait été la vue du ciel la nuit depuis l'herbe sur laquelle je suis couché, qui aurait été encore plus riche d'étoiles. Et, oh oui, encore une petite modification, je n'aurais pas été là pour l'observer. Tous ces faits montrent qu'il y a des systèmes parfaits dans l'univers, consistant pour la plupart en de délicats équilibres qui sont essentiels pour la vie. Il n'y a aucun doute que ceux-ci ne peuvent pas être le travail d'un ordre établi par hasard ou grâce à des atomes inconscients. L'univers entier est plein de preuves de la connaissance incomparable et infinie d'Allah, le Seigneur des mondes. Dans le Coran, Allah révèle que Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône Kursi déborde les cieux et la terre, dont la guerre ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. les fleurs sont de tels miracles naturels parfumés. Les fruits offrent leur merveilleuse saveur et cachettent en vitamines. Les arbres fournissent l'oxygène pour les êtres vivants. Ceux-ci sont parmi les merveilleuses bénédictions qu'Allah a données aux gens. Ils sont trop beaux, ont des systèmes trop complexes et fournissent des avantages trop indispensables pour qu'ils puissent être attribués au hasard. Les minuscules graines que vous voyez contiennent 60 fois plus d'informations que dans toute l'encyclopédie Britannica. Quand plantées dans la terre, les informations dans la graine les transformeront plus tard en fleurs ou en arbres. De chaque graine émerge une plante différente des autres dans le goût, l'odeur, la couleur et la taille. Ensemble, le sol noir et une petite graine peuvent produire des fleurs colorées, des arômes parfumés et des fruits parfumés. C'est juste une des miraculeuses créations d'Allah le Tout-Puissant. Dans le Coran, Allah dit: voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez, ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirions en débris, et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier. Pendant des millions d'années, les innombrables et diverses plantes sur Terre ont su ce qu'elles devaient faire et quand elles devaient le faire, grâce à un programme stocké dans leurs graines. Et elle se rappelle ce programme et l'effectue sans erreur. Un péché ne grandit jamais d'un noyau de cerise, et une fraise ne peut pas venir d'un pépin de citron. Il est réellement impossible pour un bout de bois sans cerveau, sans yeux ou sans intelligence de placer un tel programme perfectionné en lui-même. L'idée que ce système puisse avoir fonctionné parfaitement pendant des millions d'années en raison du système de présence fortuite est une fantaisie que tous les gens censés trouveront ridicule. C'est Allah qui crée les plantes. Ce fait est révélé dans le Coran. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau, puis par elle nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres, et du palmier, de sa spathe, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisin, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Des millions d'êtres vivants, dont chacun est équipé de systèmes les plus appropriés pour son environnement, le plus approprié pour ses besoins. Certains sont nés avec des muscles puissants, d'autres avec des oreilles fortement sensibles, certains avec des yeux conçus pour voir avec une grande clarté sous l'eau, et d'autres avec des corps capables de résister au plus long des voyages. Ainsi, qui leur a donné les informations dont ils ont eu besoin pour se préparer à un environnement qu'ils n'ont encore jamais vu? Comment un nouveau-né animal sait qu'il a besoin de poumons pour être capable d'utiliser l'oxygène dans l'atmosphère, ou qu'un poisson prévoit qu'il aura besoin de branchies pour utiliser l'oxygène dissous dans l'eau dans laquelle il nage? Comment des oiseaux peuvent se rendre compte qu'ils ont besoin de squelettes légers pour voler, ces pingouins maritimes qui ont besoin de plumes huilées afin de ne pas absorber de l'eau? Ces aigles qui ont besoin d'une vue perçante pour voir leur proie à des milliers de mètres au-dessus de la terre? Qu'un pic vert ait besoin d'un système de suspension spécial pour protéger sa tête des commotions cérébrales? comment des atomes fortuits et inconscients pourraient-ils avoir été créés des êtres vivants, ces merveilles de la conception avec des fonctions aussi parfaites? Une telle chose est bien sûr complètement impossible. C'est Allah, le Seigneur des mondes, qui a créé des êtres vivants avec leur merveilleux système, ensemble avec les conditions favorables qui permettent à chaque être vivant dans l'univers de grandir et prospérer. Le professeur Gary E. Parker était autrefois un évolutionniste, mais comme beaucoup d'autres scientifiques, sur la base de la recherche qu'il a fait en paléontologie et en biologie, il est arrivé à la conclusion que la théorie de l'évolution était invalide. Ici, il révèle ses vraies pensées dans la variété des espèces. Quelle variété spectaculaire que nous voyons parmi les êtres vivants, tant dans la variation des différentes sortes que dans le nombre extraordinaire de sortes différentes. La plupart d'entre nous sont effrayés par la variation spectaculaire dans les couleurs, la taille, la forme, les caractéristiques et les fonctions que nous pouvons voir parmi la diversité incroyable d'êtres vivants qui embellissent notre planète. Pourquoi tant de variations? Darwin lui-même a décrit l'inquiétude qu'il a éprouvée en observant la perfection dans les animaux qui ont invalidé sa théorie. Je me rappelle bien le temps où la pensée de la structure complexe de l'œil m'a refroidi, mais j'ai surmonté cette étape de plainte. Et maintenant, les détails insignifiants de la structure me rendent souvent très mal à l'aise. La vue d'une plume dans la queue d'un paon, chaque fois que je le regarde, me rend malade. Le paon empenné, qui a rendu Darwin malade quand il l'a regardé, ainsi que toutes les merveilles de la conception chez les animaux, les plantes et la nature, sont toutes les preuves de la création au moyen duquel nous pouvons comprendre la force d'Allah, qui a créé tout de rien et par lequel nous pouvons correctement apprécier sa puissance. Allah attire notre attention sur ce fait dans le Coran. Et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes, y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux, à titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Les revendications de la théorie de l'évolution sont évidemment trop illogiques pour avoir besoin d'une discussion. Elles sont aussi absurdes que l'affirmation que les gratte-ciel au milieu d'une ville sont arrivés par hasard, résultant des pierres et d'autres débris laissés par une pluie torrentielle. Les évolutionnistes rencontrent une difficulté principale en mettant en avant ces revendications qui ne sont basées sur aucune découverte scientifique. L'explication de l'âme humaine. Les évolutionnistes ne peuvent pas expliquer le moins du monde, le fait que sans vie, il soit possible que, par hasard, cela puisse provoquer un être humain, pensant, capable de s'amuser et de rire, quelqu'un capable d'éprouver la douleur et l'excitation, quelqu'un qui puisse produire des objets d'art, composer de la musique, ressentir du plaisir en écoutant une chanson préférée, aimer l'odeur et le goût de la nourriture, il peut être un bon ami, faire des découvertes, administrer un gouvernement et voyager dans l'espace. C'est parce que ses propriétés sont le résultat d'un homme ayant été doté d'une âme par Allah. Les êtres humains sont intelligents et des êtres obstinés envers Allah qui leur a insufflé son esprit. Cette vérité a été révélée dans les versets du Coran. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile, puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme, puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur, que vous êtes peu reconnaissants. Environ 7 milliards de personnes vivent dans le monde. la majorité de ces gens possèdent de parfaits systèmes de vision et d'audition. Le système visuel humain est si développé qu'aucune caméra produite avec la dernière technologie ne peut atteindre la qualité d'image que l'œil humain peut offrir. L'oreille humaine est plus avancée que le système auditif le plus moderne. Mais les darwinistes croient que ces systèmes visuels et auditifs, dont la technologie la plus avancée ne peut même pas s'approcher, sont les produits du hasard aveugle. Bien sûr, ces revendications sont extrêmement irrationnelles. Le but du darwinisme est de faire en sorte que les gens nient le manifeste et le fait certain de la création. Il n'y a absolument aucun doute que des atomes sans vie, inconscients, ne peuvent pas penser. Ils sont ignorants en loi physique et ne peuvent pas faire des calculs mathématiques. Ils ne peuvent pas devenir des ingénieurs qui construisent des barrages retenant des tonnes d'eau ou de gigantesques gratte-ciel. Ils ne peuvent pas utiliser un ordinateur, jouer du piano ou composer de la musique agréable. Le darwinisme est une cécité plus sérieuse et incompréhensible que la croyance des Égyptiens antiques envers le soi-disant dieu du soleil Ra, les totems de quelques tribus africaines, l'adoration du soleil par les Sabéens, les idoles faites à la main par le peuple d'Abraham et l'adoration du veau d'or par les enfants d'Israël. C'est le manque d'intelligence qu'Allah désigne dans le Coran. Dans plusieurs versets, il dit que quelques personnes feront assombrir leur jugement et tomberont dans un état si misérable qu'ils seront incapables de voir la vérité. Il en est parmi eux qui viennent t'écouter, cependant que nous avons entouré de voiles leur cœur, qui les empêchent de comprendre le Coran. Et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même, ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors, ce ne sont que des légendes des anciens. Quand nous regardons une image, nous savons que c'est le travail d'un peintre, conscient, capable, expérimenté et bien informé. Même si nous ne voyons pas le peintre, nous n'avons aucun doute quant à son existence. Personne ne peut soutenir que l'image est surgie comme si elle était le résultat d'une peinture étant accidentellement tombée sur la toile. Quelqu'un qui aime ses peintures n'adresse pas son éloge et appréciation aux peintures en elles-mêmes, mais à leur architecte, le peintre qui les a faits. Toutes les beautés que nous voyons autour de nous appartiennent à Allah, leur créateur. Seul Allah, le créateur incomparable d'entre tous, mérite l'éloge et les remerciements. Les gens qui croient en ces revendications les plus illusoires et non scientifiques de l'évolution sous le masque scientifique, et qui consacrent leur vie à la défense de ces revendications, seront humiliés quand la vérité sera finalement révélée. En effet, l'auteur américain Malcolm Muggeridge, qui était un partisan de l'évolution et de l'athéisme pendant de nombreuses années avant de réaliser son erreur et de devenir un croyant, dit « Je suis moi-même convaincu que la théorie de l'évolution, et particulièrement l'étendue à laquelle cela a été appliqué, sera une des grandes plaisanteries dans les livres d'histoire à l'avenir. » La postérité fera merveille, à tel point qu'une hypothèse douteuse pourrait être acceptée avec la crédulité incroyable qu'il a. Ce jour n'est pas loin, en fait, il est tout proche, où les gens comprendront que le hasard ne peut pas être un créateur et se rendront compte que la théorie de l'évolution a été la plus grande tromperie qui a puissamment ensorcelé. C'est parce que la vérité sur la création est évidente. Comme il est exposé dans le Coran, c'est Allah Tout-Puissant qui donne aux gens tout ce qu'il possède et qui crée l'univers dans lequel nous vivons. Ce qu'une personne doit faire avant tout, c'est de connaître Allah, le Créateur d'entre nous, et le remercier. Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout? Ils diront Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Tel est Allah, votre vrai Seigneur, au-delà de la vérité. Qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner ?